Bonsoir, merci à toutes et à tous d'être venus ce soir pour la conférence de remise du prix du Livre du Réel de l'édition 2023. Le prix du Livre du Réel est un prix qui est donc animé par la librairie Mola en partenariat avec le CIC Sud-Ouest et Sciences Po Bordeaux et qui depuis 2016 récompense tous les ans un livre et une bande dessinée qui occupe ce terrain donc on appelle la littérature du réel, c'est-à-dire l'idée que rappeler que la littérature ce ne sont pas que des romans, c'est-à-dire qu'il est possible par les moyens d'une écriture littéraire ou du dessin de parvenir à rendre compte du monde dans sa réalité. Et on est très heureux ce soir de recevoir donc la lauréate littérature qui est donc Alice Géraud pour son livre magnifique Sambre et qui sera interviewée donc par Jean-Claude Raspienjas, membre du jury, puisque le président du jury, Eric Fotorino, est malheureusement excusé, il n'a pu nous rejoindre. Et l'autre lauréate, vous trouverez son album et qui, elle, a dû rejoindre les États-Unis. C'est Valentine Cuny-le-Calais qui a fait avec Perpendiculaire au soleil un livre tout à fait éblouissant sur la question de la condition carcérale aux États-Unis. Donc je vous laisse désormais à la conférence et très bonne rencontre à vous. Bonne soirée.
Merci Pierre. On est ravis de vous recevoir, Alice Géraud. Pour tout vous dire, le jury a pas débattu très 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 longtemps. Enfin, l'évidence est imposée assez vite que votre livre était très fort et sur le propos, le sujet, l'histoire, votre méthode d'enquête et le récit que vous en avez fait, la forme du récit que vous avez adopté. Alors, on va essayer de synthétiser un peu l'histoire en deux mots. Vous partez sur une enquête sur l'histoire d'un violeur qui pendant 30 ans a à peu près violé une centaine de femmes dans un rayon géographique assez limité et toujours avec le même mode opératoire, et il passe à travers les mailles de tous les filets. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'histoire et surtout, quand est-ce que vous y allez et qu'est-ce qui vous pousse à partir là-bas et à suivre cette affaire ?
Alors, en fait, cette affaire, moi, je la découvre, enfin, en tout cas, elle parvient à mes oreilles comme un fait divers. C'est-à-dire un fait criminel qui a quelque chose d'un peu exceptionnel. Et là, en l'occurrence, ce qui est exceptionnel dans cette histoire, ce sont ses dimensions, puisque, effectivement, vous le rappeliez, moi j'apprends, donc on est en février 2018, un homme a été arrêté et il est soupçonné, effectivement, d'avoir agressé sexuellement et violé. Alors, à l'époque, on n'a pas trop de chiffres, on pense environ 80 femmes. Pendant 30 ans, sur le bord de la route, le matin, en allant à son travail, c'est-à-dire entre son domicile et son usine, ce qui fait, c'est le long d'une route qui longe la rivière la Sambre, d'où le titre du livre et d'où son nom de fait divers, violeur de la Sambre. Donc c'est 27 kilomètres et cette histoire m'interpelle parce que ce qui me surprend, c'est que je ne la comprends pas en fait. Je ne comprends pas l'incohérence de ces dimensions. Je ne comprends pas comment c'est possible. Et donc moi, je suis journaliste de métier. Et donc, j'habite en région parisienne et je prends un train pour Maubeuge, puisque c'est la région. Je situe la Sambre, peut-être pour. On en est très loin ici. La Sambre, c'est une région du nord, du département du nord. C'est le sud du nord, en fait. Le sud du département du nord, c'est la région de Maubeuge. C'est coincé contre la Belgique et c'est une région très isolée et très sinistrée économiquement. Et donc, je me rends à Maubeuge et en fait, en rencontrant les premières victimes, je comprends plusieurs choses. D'abord, je suis bouleversée par leur récit parce que ces femmes me racontent leur viol qui s'est déroulé il y a vraiment 10, 20 ou 30 ans pour certaines. Et ce qui me frappe vraiment, c'est qu'elles me le racontent comme si ça s'était déroulé la veille. Et je comprends que, en fait, la vie de ces femmes s'est arrêtée un matin sur le bord de cette route. Et puis elles me racontent autre chose, elles ont autre chose de commun que ce traumatisme-là, elles ont un second traumatisme pour la plupart, c'est la manière dont elles ont été traitées. Certaines, notamment les adolescentes, n'ont pas été crues, souvent elles n'ont pas été entendues, elles ont parfois été un peu sentiment d'être violentées par la police, et certaines parlent même d'un second viol, et quand on a été violé une fois, le mot résonne assez durement. Et elles ont toutes l'impression, en tout cas, d'avoir été oubliées. D'ailleurs, elles ne savaient pas, avant l'arrestation de cet homme, pour la plupart, avoir été victimes d'un violeur en série. Et en fait, je me dis à ce moment-là, ben, cette histoire, je vais pas faire un article dans un journal. Je vais essayer de la reconstituer entièrement, parce qu'elle n'existait pas. Et elle va me permettre de raconter, d'interroger la manière dont on a traité les victimes d'agressions sexuelles et de viols pendant 30 ans en France, depuis la fin des années 80, date des premiers faits qui sont reprochés à cet homme, que je nomme peu, mais qui s'appelle Dino Scala, et jusqu'à notre époque, qu'on appelle souvent l'ère MeToo, lui, post-MeToo, en tout cas, lui, il est arrêté en février 2018, donc c'est-à-dire quelques mois après, je mets quelques guillemets, que la vague MeToo est déferlée ou pas, enfin en tout cas, soit passée, arrivée en France.
Il faut quand même resituer qui vous êtes. Donc, vous êtes journaliste, vous avez travaillé longtemps à Libération, vous avez cofondé et codirigé le site Les Jours, qui était un site de journalistes, qui faisait des articles sous forme de séries, et vous avez quitté Les Jours. Et je voulais savoir, quand vous arrivez sur cette enquête, est-ce que vous vous dites, je vais en faire un livre, ou je vais... Là, vous venez un peu de m'expliquer, mais est-ce que vous comprenez que vous allez partir quand même sur une enquête qui va vous prendre 4 ans? Et l'autre question que je voulais vous poser, c'est comment vous arrivez à ces femmes et comment est-ce qu'elles acceptent de vous parler? Parce que beaucoup se sont réfugiées dans le silence. Vous nous parlerez ensuite des conséquences que ça a eu sur elles, mais elles se sont beaucoup réfugiées dans le silence à cause du double traumatisme dont vous parlez. Comment est-ce qu'elles acceptent de vous parler? Pourquoi elles le font? Et...
Alors, sur la question de est-ce que je veux en faire un livre, moi, souvent, c'est ma façon de travailler. Je ne sais pas si je vais faire un article quand je me déplace, et j'y vais pour voir, pour essayer de comprendre. J'ai une question et j'essaie de comprendre. Et d'ailleurs, ma question, comment est-ce possible, j'ai un élément de réponse quand je commence à parler à ces femmes. Je vois bien que l'indifférence, le mépris, voire la maltraitance qui leur a été faite n'est pas étrangère à cette question, à pourquoi il n'a jamais été inquiété, cet homme-là. Je vois bien qu'il y a quelque chose qui se joue là. Et en fait, assez rapidement, effectivement, donc moi, j'ai travaillé ce média qui s'appelle Les Jours, qui fait du journalisme... très long format, c'est sous forme de série avec des épisodes, mais c'est feuilletonné comme le journal, enfin ce qui a pu être fait dans le journalisme du 19e siècle, et donc il y a un côté quand même en temps réel où l'enquête progresse au fur et à mesure des épisodes. Et là, je ne pouvais pas faire ça parce que j'avais besoin de reconstituer cette histoire. Et je n'avais pas... Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles je ne voulais pas en faire des articles. C'est d'abord, j'avais besoin de cette histoire complète. J'avais besoin de reconstituer ce puzzle, et il était éparpillé. Il y avait des pièces de partout. Il y avait des témoignages qui s'effilochaient, des gens qui étaient morts. Enfin, j'avais besoin de... Et donc, ça correspond pas tellement à l'espace-temps de l'article, même dans un organe de presse où on peut faire du journalisme très long format. Et puis, je crois qu'effectivement, et là j'en reviens effectivement à la parole des femmes, dans la souffrance qui est celle de ces femmes, il y a évidemment ce qu'elles ont vécu, ce que leur a fait vivre cet homme. Quelques secondes, parfois quelques minutes qui ont brisé leur vie. Mais il y a ce qu'elles ont aussi de plus fragile en elles, c'est leur parole. Et moi, en tant que journaliste, là, j'avais vraiment un sentiment très particulier, une responsabilité à que faire de cette parole. C'est ce qu'elles avaient de plus fragile. Donc, il fallait que je fasse très attention de savoir où je la dépose, cette parole-là. Et même dans un journal que j'ai cofondé ou dont je dirigeais la rédaction, donc on peut se dire j'ai une certaine maîtrise des choses. Je ne sais pas, j'avais un peu peur que ces témoignages, en fait, se promènent sur Internet. Et même globalement, là, ce n'était pas le cas, mais dans un journal, on ne sait pas quel titre on va avoir, on ne sait pas quel article il y aura à poser à côté, on ne sait pas dans quelle une, dans quel espace d'actualité on va tomber. Et l'objet livre, au contraire, est un espace beaucoup plus personnel qu'on maîtrise, ou en tout cas qu'on espère maîtriser. On est tout seul dans son livre, et c'était pour moi un espace plus sécure pour cette matière particulièrement fragile qui était la parole de ces femmes. Et puis j'avais besoin de cet espace-là, à vrai dire, de ce temps-là. Finalement, ça a pris 4 ans. Je pensais que ça prendrait un peu moins de temps, mais l'enquête a... Il se trouve que je voulais attendre que le procès soit passé, et le procès a pris plus de temps que prévu à cause du Covid. Enfin, là, c'est moins intéressant. Mais durée de 4 années a été importante, pas seulement pour prendre le temps de l'enquête, mais le temps de la maturation aussi du sujet, de l'écriture. Tout ça était un peu compliqué. J'avais beaucoup de pièces, et il fallait construire quelque chose, un récit à partir de ça. Et donc, comment j'ai approché ces femmes, je n'en ai approché aucune directement. c'était une règle que je m'étais fixée, sauf celles qui s'étaient exprimées. Il y en avait quelques-unes qui s'étaient, au moment de l'arrestation, qui s'étaient exprimées dans les médias. C'était assez rare. Et certaines avaient pu s'exprimer sur les réseaux sociaux, donc une forme d'expression publique. Et donc, celles-ci, je les ai contactées directement. Et à partir, d'abord, toujours avec la même manière, c'est-à-dire que je leur explique ma démarche et je leur propose qu'on se rencontre, non pas pour qu'elles me racontent tout de suite quelque chose, mais qu'elles voient si elles peuvent s'entendre avec moi, si elles me font confiance et on peut se revoir avant de parler autant de fois qu'il est nécessaire. Alors, voilà. Et par ces femmes, parfois, j'en ai rencontré d'autres parce que certaines, très peu, se connaissaient. Et puis sinon, je suis passée par des intermédiaires qui étaient souvent... alors pour celles qui avaient été, qui étaient encore mineures, enfin qui étaient très jeunes filles, je suis parfois passée par les parents et tout le temps par les avocats. Et j'ai écrit beaucoup de courriers, j'allais dire manuscrits, j'écris jamais, enfin en tout cas de tapuscrits, mais de lettres adressées directement à ces femmes que j'ai demandé à leurs avocats de... de leur faire passer avec un peu la proposition que je viens de vous exposer. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'est trop violent, en fait, de téléphoner directement à quelqu'un dont je sais, c'est une particularité du viol et des agressions sexuelles, c'est-à-dire qu'elles n'en ont parfois parlé à personne, et puis ça date. Et donc, elles, souvent, il y en a pas mal qui ont reconstruit plus ou moins leur vie comme elles pouvaient, donc qui ont des époux, qui ont des enfants, et elles n'en ont pas toujours parlé, je me doutais bien, à leur mari, à leurs enfants, et donc appeler un domicile, enfin ça paraissait une intrusion, voilà. Et puis j'avais appris, en Belgique, j'avais des interlocuteurs très précieuses, qui étaient le bureau d'aide aux victimes, qui est très différent du système français. Il y a un système beaucoup plus protecteur des victimes, et il y a des femmes, ce sont des femmes, psychologues ou travailleuses sociales, qui travaillent avec les victimes, mais alors pour le coup, de façon très proche, et qui les connaissent bien. Et il se trouve que j'ai appris par elles que, peu de temps après l'arrestation d'Ino Scala, toutes les victimes belges, j'ai dû avoir une fuite dans le dossier, en fait. Le dossier belge avait dû se retrouver entre les mains d'une journaliste française qui a appelé les unes après les autres ces femmes, quelques semaines après l'arrestation de Dino Scala, et que ça avait été un traumatisme pour toutes. Et d'ailleurs, dans le livre, je traite quasiment pas des victimes belges parce que j'ai pas insisté, en fait, là-dessus. Je m'en suis remise à ce que m'ont raconté les bureaux d'aide aux victimes.
Alors, vous dites au début de votre livre que, justement, vous avez pris cette histoire par son envers, comme vous dites, c'est-à-dire que vous allez directement voir les victimes, plus que le meurtrier qui reste une sorte d'ombre dans votre livre. Donc, vous vous en tenez aux victimes et vous montez un livre absolument extraordinaire qui est vraiment, vous vous en tenez aux faits. Les faits, rien que les faits, et vous montez une sorte de mécanique implacable sur ce qui s'est passé, sur les dégâts, évidemment, le jour même, mais aussi sur les conséquences, avec les gendarmes, les policiers, la justice ensuite, puis les conséquences psychologiques, sociales, familiales auxquelles ont été soumises toutes ces femmes, avec en plus à chaque fois, même si le mode opératoire est le même, des dégâts qui sont appropriés à chacune d'entre elles. Donc comment est-ce que vous avez monté cette mécanique-là, et surtout ce que l'intérêt de la mécanique que vous avez mis en route, c'est de mettre à jour un dysfonctionnement général de la société, du système, enfin bon. Alors comment vous avez monté cette mécanique, à quel moment vous vous êtes dit « je vais le faire comme ça »
D'abord, il y avait quand même une intention que j'ai exposée tout à l'heure, qui était de savoir ce que ce fait divers, n'avait pas de fait divers d'ailleurs, allait pouvoir me raconter sur un sujet. Donc j'avais un projet et une question qui est relativement politique quand même, de quelle manière, ou sociologique, enfin on l'appelle comme on veut, moi je l'appelle politique, qu'est-ce que ça nous raconte du traitement des victimes d'agressions sexuelles et de viols. Et donc, il fallait que je reconstitue ce récit, parce que cette histoire du violeur de la Sambre n'existe pas avant son arrestation. Et encore, à son arrestation, on sait quelque chose. C'est-à-dire que avant, elle n'a jamais été racontée, parce que les femmes se taisent, parce que personne n'en parle. Et moi, je n'avais pas, donc j'avais aucune raison tellement de m'intéresser à lui, parce que d'abord, j'ai pas de fascination particulière, moi, pour les criminels en série, et comme beaucoup de gens en ont, je leur laisse volontiers cette tâche. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'envers du fait divers, et pas effectivement pas seulement les victimes, mais tout le système dans lequel ça s'inscrit. Et donc, en fait, cette intention, elle a été rapidement, enfin, presque tout de suite, mais après, effectivement, le comment j'allais faire.
Est-ce que vous pouvez quand même mieux expliquer quand vous dites, quand il est arrêté, on ne sait pas encore, enfin, on n'a pas encore compris qu'on a affaire à un violeur en série. Est-ce que vous pouvez expliquer le côté justement décousu, déconstruit de toute cette histoire, enfin, qui la rend invraisemblable, enfin, 30 ans de viol sur 27 km tous les matins, enfin,
je vais résumer un peu l'histoire, en fait, dans les années 80. Il commence à... Enfin, je vais la raconter comme je raconte dans le livre, donc sans le mettre en sujet, ça sera plus... On comprendra mieux. Dans les années 80, 87, 88, des femmes portent plainte, parfois à quelques semaines, quelques jours, parfois quelques heures d'intervalle, dans différents commissariats de cette région du Val-de-Sombre. Alors, c'est trois commissariats, hein, Aulnoy-Aymeries, Maubeuge et Jeumont. Mais par exemple, si je prends les années 87-88, c'est uniquement quasiment à Maubeuge. Et raconte avoir été agressée sexuellement, violée ou une tentative de viol. Elles racontent un mode opératoire strictement identique. C'est-à-dire qu'un homme... alors, c'est très particulier parce que c'est le matin, tôt le matin. Donc, c'est assez rare en termes de criminalité. Elles ont été attrapées par derrière, par le cou, étranglées par un homme qui a surgi de bon matin. C'est quasiment toujours dans les mêmes rues, sur la même route. Il a prononcé des phrases qui sont quasiment exactement les mêmes. Je ne vais pas vous le répéter, mais il y a par exemple « je ne vais pas te violer » qui est très particulier pour quelqu'un qui va effectivement se violer ensuite. Et elles décrivent une voix grave, et beaucoup décrivent une même odeur, tantôt une odeur de graisse, tantôt une odeur d'usine. Alors la Sambre, c'est une région d'Assyrie, donc il y a beaucoup de métallos, et donc les femmes connaissent cette odeur, c'est une odeur qui est familière souvent. Et après, il leur demande de compter sans se retourner pour qu'ils puissent prendre la fuite. Donc ce récit qui est très particulier, il est répété maintes fois dans les commissariats, et pourtant, les policiers ne vont pas faire le lien. Et ça va durer très longtemps. Jusqu'en 1996, donc plus de 10 ans après, on a un policier qui va commencer à faire le lien, puis une magistrate, on va ouvrir une information judiciaire, mais ça dure quelques années. Et puis, au bout de quelques années, on a un policier d'office judiciaire de Lille qui va enquêter pendant 10 ans dessus. Donc, il y a un récit qui existe, mais qui est caché, puisque personne n'en parle. Moi, par exemple, pour écrire cette histoire, pour reconstituer ce récit, je me suis mis en tête de lire toute la presse locale pendant 30 ans. J'étais à la recherche. Je disposais des plaintes de ces femmes ou des mains courantes. Et donc, j'avais les dates. Et j'étais à la recherche de ce récit, de quelle manière il avait été raconté médiatiquement. Il faut savoir qu'il y a la Voix du Nord, la page locale, la page de Maubeuge de la Voix du Nord, et puis il y a deux hebdomadaires qui sont liés. Et dans les deux cas, on est sur une presse qui accorde une très large part à ce qu'on appelle le fait divers. Ça va de l'explosion de Cocotte Minute, très en vogue dans les années 80, à la bagarre de bar, tapage nocturne, etc. Et puis un peu de criminalité, délinquance. Et non seulement je ne trouve pas trace des agressions et des viols de ces femmes, mais en fait, assez rapidement, je m'aperçois que je ne trouve trace, quasiment aucune trace de délinquance ou de criminalité sexuelle. C'est-à-dire qu'en fait, cette chose-là dont nous parlons beaucoup depuis quelques années est totalement absente du récit médiatique. Ce qui m'interroge fortement. C'est aussi pour ça, en fait, qu'il n'y a pas de récit. Il y a un récit du dossier judiciaire, mais qui est effiloché, qui s'arrête, etc. Voilà. Et donc, pour reconstituer ce récit, j'ai eu besoin de procéder comme avec des calques, en fait, de superposer plusieurs récits. Certains étaient souvent incomplets, et au bout d'un moment, on voit une image apparaître. Alors, pour moi, la chose la plus importante, c'était le témoignage de ces femmes aujourd'hui. Je n'avais pas le témoignage de toutes les femmes, parce que certaines ne voulaient pas du tout parler. Et puis, quand je l'avais, il était évidemment abîmé par le temps, abîmé par la souffrance, le traumatisme. J'avais le récit de la procédure judiciaire, le récit des PV. Alors, le récit des PV, ce n'est pas le récit des faits, c'est une vérité qui est autre. D'abord, c'est une sémantique qui est autre. C'est un individu se promener pédestrement et m'a proposé de faire l'amour. Voilà, c'est des choses comme ça. C'est un mélange de ce vocabulaire policier et de si je suis gentille, de maladresse, en fait, mais d'une culture extrêmement sexiste de l'époque et puis d'une inculture totale sur ce qu'est le crime sexuel et la souffrance qui en découle. Et j'ai ces récits-là. Donc, j'ai le récit médiatique, qui est un récit quasi blanc, en fait. J'ai le récit, j'essaie de retrouver d'anciens policiers de ces commissariats, donc, qui me racontent des choses, qui se souviennent, mais qui ont un souvenir qui est pareil. Voilà, tout ça, et c'est que des récits déformés, ce qui est normal, en fait. Voilà. Et au bout d'un moment, je superpose des magistrats de l'époque. Il y a ceux qui se souviennent de rien, et c'est intéressant aussi, ceux qui me racontent aussi des éléments de contexte. Moi, la Sambre, c'est pas une région que je connaissais, je la connaissais pas du tout. Donc j'ai besoin de comprendre comment ça fonctionne. L'isolement, la pauvreté sont des dimensions très importantes, et elles vont être des dimensions très importantes dans les dysfonctionnements de la police et de la justice, parce que, outre effectivement du mépris, de l'indifférence, du sexisme qu'on retrouve régulièrement de la part des policiers, on a aussi une indigence, en fait, du système qui est très importante. Le commissariat d'Aulnoye-Aymeries, où se concentrent la plupart des plaintes, je me souviens d'un policier qui me racontait, mais c'est vrai, on a pris des mains courantes pour des viols au lieu des plaintes, mais parce qu'on n'avait pas de papier, souvent. Souvent, on allait à la mairie, mais alors, le week-end, il n'y a pas la mairie d'ouverte. Et tout ça, c'est important pour comprendre et exposer des dysfonctionnements. La justice, c'est pareil. Il y a eu dans cette histoire, donc la première information judiciaire est ouverte en 1996, et puis la dernière se clôt avec l'arrestation de Dino Scala en 2018. Il y a 12 juges d'instruction qui vont se succéder dans ce dossier. 12 femmes ont sorti d'école, de l'école de la magistrature ici présente. Et c'est intéressant. Et c'est le tribunal d'Avesnes-sur-Helpe. C'est un tribunal où il devait y avoir 2 postes au pôle criminel de juge d'instruction. Il n'y en a jamais eu qu'un. Donc c'est des magistrates qui sortent de l'école et qui se retrouvent toutes seules à gérer le tout venant. Et voilà. Et ça explique aussi pourquoi la justice n'avance pas. Et une magistrate m'expliquait que quand elles sont nommées à Avesnes-sur-Helpe, elles le surnomment Avesnes-sur-Helpe, H-E-L-P, pardon. Sauvez-moi et je voudrais partir. Et tout ça, c'est des choses qui permettent d'expliquer aussi les dysfonctionnements et dont j'avais besoin pour construire le récit. D'où peut-être ces 4 années, parce que ça a été un petit peu fastidieux, évidemment, de rassembler tous ces éléments. Et je me dis toujours qu'il en manque encore, mais c'est toutes ces couches qui permettent de produire du récit, surtout de lui donner du sens et d'éviter les contresens.
Oui, et puis alors, en plus, dans cette succession de magistrates et aussi de flics, il y a une sorte de discontinuité, c'est-à-dire qu'ils se succèdent, et puis les dossiers se perdent, enfin, il n'y a pas de continuité, il faut redémarrer et tout ça. Et vous avez un personnage clé dans votre livre qui est une documentaliste obscure, c'est-à-dire qui est une sorte de rat de bibliothèque, quoi, et qui, elle, fait le lien depuis longtemps. Elle comprend, elle pige qu'il y a quelque chose, enfin, qu'il y a un criminel solitaire qui, lui, raccorde un peu tout ça. Alors, comment vous tombez sur cette documentaliste? Comment vous la faites apparaître
et... Alors, je tombe sur elle totalement par hasard, et elle aurait pu ne jamais être dans ce livre, et j'en ai encore des sueurs froides. Effectivement, dans ce dysfonctionnement général des institutions, heureusement, en fait, très souvent, comme quand l'institution dysfonctionne, le salut ne passe que par des personnalités qui sont un peu exceptionnelles, ça peut être par leur sensibilité, par leur compétence, par leur force de travail ou une forme de lucidité qui va faire qu'elles vont enrayer cette mécanique de l'échec. Et effectivement, la dame dont vous parlez, qui s'appelle Christine Andrieux, fait partie de ces grains de sable qui ont permis, qui font qu'aujourd'hui, Dino Scala est en prison et que ces femmes sont reconnues comme victimes. C'est une documentaliste de la PJ de Lille. Donc, les documentalistes de la police judiciaire ne sont pas des policières. Elles sont, je dis elles parce que ce sont des femmes, mais ce sont généralement des femmes. Et donc là, la police judiciaire de Lille, d'ailleurs, elles sont quasiment en sous-sol. C'est un rez-de-chaussée semi-sous-sol. Effectivement, c'est un endroit très sombre. Et leur travail est de récolter, de classer toutes les dépêches, les téléx, les télégrammes, enfin, ça s'est appelé de façon différente selon les époques, qui leur arrivent de l'ensemble de la juridiction de la police judiciaire de Lille, qui est assez large. C'était ce qu'on appelait la région Nord-Pas-de-Calais, plus une partie de la Picardie, plus des dépêches transfrontalières avec la Belgique, puisqu'on est collé à la Belgique. Et elles trient, et puis parfois elles font des rapprochements, et tout ça a été hérité d'une époque qui est très importante, en fait, dans cette histoire, où la mémoire artificielle ne fonctionne pas, et puisqu'il n'y a pas d'informatisation pendant très longtemps. Et donc, les recoupements, on l'a vu dans d'autres affaires nettement plus célèbres, type, je ne sais pas, enfin, tous les tueurs en série du Fourniret, de Francis Holmes, etc. On ne faisait pas le lien parce qu'on n'avait pas l'informatique. Donc, voilà. Et à défaut de mémoire artificielle, il y a effectivement parfois des mémoires humaines. Et cette Christine, elle est dans les années 80 à la PJ de Lille. Et elle s'intéresse aux crimes, elle dit, de mœurs, comme on disait encore à l'époque. Aux affaires de mœurs, notamment celles qui touchent aux femmes et aux enfants. Mais généralement, les affaires de mœurs touchent principalement aux femmes et aux enfants. Et elle voit ces plaintes qui se ressemblent. Ce que les policiers qui ont reçu ces femmes dans le même bureau, parfois à quelques heures d'intervalle, ne voient pas, elle le voit. Mais personne ne lui demande rien. Donc elle fait un petit tableau. Et moi, j'ai retrouvé ce tableau qu'un policier a fait passer un moment dans la procédure belge. Enfin, vraiment, c'était une feuille que j'ai tirée du dossier. Il a attiré mon attention parce que y a quasiment des ronds sur les i, en fait. Et c'est tracé à la règle, il y a une écriture. Et en fait, c'est la base de la procédure qui aujourd'hui permet de confondre Dino Scala, qui permet à je sais pas, l'OCRVP, qui a un office de police judiciaire à Nanterre, qui est très technique, en fait. Ils font des recherches, des machins, avec des moyens pas possibles. Mais en fait, avec quoi? Avec la base des informations de cette dame. Et donc, je pensais que c'était un policier d'office judiciaire qui avait je cherchais cet homme qui ne voulait pas me répondre, qui était à la retraite, que je surnomme le grincheux dans ce livre. Et donc, j'essaie de convaincre ses collègues actuels. J'ai dit non, mais j'ai vraiment besoin de lui répondre. Je l'ai soupçonné de ne pas vouloir. Je me dis, mais ils veulent pas me donner ce nom, enfin, ce contact, peut-être, parce que... Et puis, je monte ce tableau et il me dit, mais non, ça, c'est l'écriture de Christine. Mais je dis, mais qui est-elle? C'est la documentaliste, elle est au rez-de-chaussée, je peux la voir, et voilà, et elle est montée avec sa collègue Lisiane, avec qui elle a fini ce travail-là, et j'ai rencontré comme ça ces deux femmes, mais j'aurais pu ne jamais les rencontrer, et sans elles, cette affaire n'aboutissait pas, sans ces deux femmes. Voilà, donc c'est effectivement des travailleuses de l'ombre, et pour le coup, c'est ce travail très long, c'est lors d'une énième... visite à la PJ de Lille que je suis tombée sur ces deux femmes.
Alors que c'est elles qui vont tout éclairer.
C'est elles qui éclairent tout, ouais. Qui permettent de tout éclairer. Et d'ailleurs, jusqu'à la fin, puisque Dino Scala, on perd un peu sa trace, enfin en tout cas, on perd la trace du violeur de la Sambre. Dino Scala, lui, est un homme effectivement très intégré dans la vie, dans son travail, etc. Mais effectivement, dans les années avant 2018, on perd un peu sa trace. On ne sait pas du tout ce qu'il a fait, où il a agi, s'il a agi. On pense que oui, mais on ne sait pas. Voilà. Et puis, en février 2018, une adolescente de 17 ans est agressée sexuellement sur la commune d'Erquelines, qui est la commune jumelle, enfin qui collait à la frontière, où il a commis pas mal de faits, mais plutôt dans les années 2005-2007, à ce moment-là. Et donc, elle décrit un mode opératoire, ça se passe le matin. Et les policiers envoient un téléx, c'est habituel, une dépêche transfrontalière, en disant... Il y a trois lignes sur cette dépêche. Sauf que la dépêche, elle parvient sur les ordinateurs des deux documentalistes. Et en fait, Christine, elle passe un coup de fil au commandant Martins qui suit l'affaire depuis 10 ans, cet étage plus haut, et elle n'a même pas besoin de le nommer. Elle lui dit je crois qu'on l'a. Et lui, qui pensait qu'il était mort, que voilà, il allait prendre sa retraite sans arrêter cet homme, effectivement, c'est lui. Donc, non seulement elle permet de le confondre à hauteur de ces crimes là, parce qu'on a retrouvé ces femmes grâce à ce tableau là, mais elle permet aussi son arrestation avec le commandant de police qui n'avait pas lâché l'affaire.
Oui, parce qu'avec toutes les conséquences dont vous parlez sur les victimes, vous dites aussi que du côté des enquêteurs, beaucoup traînent un remords, un regret de ne pas arriver à le coincer, partent ailleurs, vont partir vers d'autres tâches et ont le sentiment d'avoir échoué dans leur mission de le débusquer. Et ce qui est étonnant dans votre livre, c'est cette documentaliste comme ça de l'ombre qui, elle, assure la permanence de la conscience de ce qui s'est passé, alors que cette conscience a été un peu, comme disait, c'est un puzzle pour les victimes, mais c'est aussi un puzzle pour les enquêteurs. Et on a cette femme qui... Alors, il faut dire un mot quand même de ce Dino Scala, dire un peu l'essentiel, c'est-à-dire qu'en effet, il est parfaitement intégré, que tout le monde le connaît, qu'il est entraîneur de foot, qu'il est copain avec les gendarmes, qu'à un moment, il y a un portrait robot qui lui ressemble et il fait le malin chez les gendarmes, il va boire un coup à la gendarmerie, et puis il dit dit, bah, c'est moi. Mmh. Et personne ne bouge. Il est suspect dans sa propre famille parce qu'il n'a déjà pas été très net. Alors, vous lui faites un sort particulier dans votre livre. C'est une sorte de fantôme, évidemment. Il erre, c'est un peu... Et vous lui réservez des 3-4 lignes à chaque interchapitre de ce qui a pu lui arriver. Il s'est remarié, il a divorcé, il s'est remarié, il a eu des enfants... Il est devenu entraîneur de foot, il est devenu président de son truc. Et de temps en temps, des citations de lui tirées, j'imagine, des procès-verbaux. Alors, pourquoi cette impression en creux de ce Dino Scala dans votre livre et pourquoi ces interchapitres qui lui sont consacrés ?
Alors, il est dans l'interchapitre puisqu'il n'est pas le sujet du livre. Non, j'ai eu envie d'essayer de mettre en regard et en face-à-face, cruel, la banalité et la tranquillité de sa vie, puisque ce que je raconte principalement dans ces quelques lignes, c'est il se marie, il déménage, il devient père, il devient grand-père. Donc c'est cette vie banale, tranquille, qui se poursuit. Et je voulais la mettre en regard face au chaos en fait, qu'il a semé derrière lui et aux dizaines de vies qu'il a détruites. Il n'a jamais tué personne, mais il a comme elles le disent très souvent, c'est une impression qui revient, je suis morte à l'intérieur. Et je voulais que cette chose-là, ce fossé, apparaisse, même si c'est un peu cruel.
Non, mais le procédé est très, très efficace, très, très impressionnant. En 3-4 lignes, vous nous saisissez à chaque...
Parce que c'est quelque chose, moi, qui m'a saisi. Et puis, cette idée s'est renforcée au procès, où il avait ce ton-là. Il a... Au procès, il reconnaissait certains faits, pas d'autres. Et à un moment, il dit, mais il n'a jamais d'émotion. Voilà. Parfois, il s'excuse. Et il dit, je suis désolé. Voilà. Il parle comme ça. Et il y a une victime qui lui a dit, une des rares victimes qui arrivait qui a eu la force de s'adresser à lui et de lui adresser la parole, lui a dit, mais écoutez, monsieur Scala, vous vous excusez très bien. Mais d'abord, vous avez détruit ma vie. Mais vous vous excusez comme si vous aviez raflé le capot de ma voiture. Et c'était extrêmement marqué parce que c'était tellement juste. Ça faisait 3 semaines que j'entendais ça. Et voilà, il a ce détachement-là, une sorte de banalité, de tranquillité. Et j'avais vraiment envie de voilà, lui, là, il a mené sa vie quand celle de ses femmes s'est arrêtée, quoi.
Alors, vous racontez des choses absolument saisissantes, notamment, je crois que c'est à Maubeuge, où il y a la police d'un côté, la gendarmerie de l'autre, ils sont séparés par un boulevard, et sur ce boulevard, il a agi. Et ni la police ni la gendarmerie, d'abord, ne communiquent pas leurs informations, la guerre classique police-gendarmerie, mais en plus, il a fait ça quasiment sous leur fenêtre. Enfin, j'exagère, quoi, mais... Et pendant des années. Et... Enfin, tout est effarant dans cette histoire. Tout est effarant de voir comment ce type peut échapper... Alors... Vous donnez évidemment un début d'explication, enfin vous la donnez, c'est ce dysfonctionnement, et puis en effet comment la parole des victimes n'est pas du tout considérée. Et d'ailleurs vous démarrez votre livre par une scène absolument terrible au tribunal, où une des premières victimes, donc 30 ans après, vient témoigner, et elle est malmenée par la justice. Et alors toutes ces femmes ont été malmenées aussi, c'est-à-dire c'est ça qu'il faut vous expliquer. Plus, c'est quand elles arrivent au commissariat, très souvent, on les suspecte d'avoir été un peu à l'origine de ce qui s'est passé, quoi. Donc, et puis vous dites aussi que le code pénal a changé en cours de route, hein, que très souvent les flics ou les gendarmes ont mis ça sous le compte d'attentat à la pudeur, ont pas voulu aller au-delà. Vous dites le code pénal a changé, on a qualifié autrement les choses et de façon plus criminelle ce qui se passait, mais eux n'en tenaient pas compte.
Oui, alors effectivement, c'est ce qui m'a intéressé aussi de balayer ces 30 années, c'est qu'on voit des évolutions, alors du droit, effectivement, mais qui sont des évolutions de notre société, qui ne sont pas linéaires. Globalement, on est plutôt sur une progression, une prise en compte, une culture plus grande, une meilleure connaissance, une plus grande préoccupation, et puis surtout des moyens techniques, là, pour le coup, qui sont... On passe de la préhistoire à quelque chose de... Voilà, s'il avait commencé en 2018, il se serait arrêté en 2018, il faut dire ce qui est... Là, c'est pas le cas. Et effectivement, on voit des évolutions, notre société, notamment des évolutions du droit, puisqu'au milieu de cette histoire, en 1994, est promulgué et rentre en vigueur, en tout cas, le nouveau code pénal, donc qui n'avait pas changé depuis le début du 19e, enfin, qui avait été amendé, mais là, on est vraiment sur le deuxième code pénal, je ne sais pas si on dit comme ça, mais... Et qui, c'est pas tellement commenté à l'époque, mais qui est une révolution, dans la philosophie de notre droit, dans sa morale, en tout cas, très importante sur la question des crimes sexuels, c'est-à-dire qu'auparavant, ce sont, je citais le mot « mœurs » tout à l'heure, ce sont des atteintes aux mœurs. Donc, en fait, ce sont des atteintes à la société et ça renvoie à quoi ? Donc, ça renvoie, on a les notions de mœurs, de pudeur, d'outrage à la pudeur, d'attentat à la pudeur, et ça renvoie à des choses très fortes pour les victimes. Ça renvoie, en fait, ça signifie que la victime devrait avoir un sentiment de honte et de culpabilité. Et ça, on peut rayer ces phrases-là dans le code pénal. C'est un poison. Donc ça coule dans le sang des victimes, ça coule dans le sang de la société. Et aujourd'hui encore, ces femmes-là, la honte et la culpabilité, elle est présente. Mais elle est intégrée par les policiers qui leur font effectivement bien ressentir. Mais pas que les policiers. Moi, je pense que la police, c'est vraiment un miroir grossissant du regard de la société sur la question du viol, grossissant et un peu déformant, parce que là, on est dans un milieu d'hommes. Donc, à ce moment-là, c'est quasiment que des hommes. Alors, c'est commissariat, un peu virilistes, on est chez les forces de l'ordre, etc. Donc, c'est assez déformant, mais ça dit beaucoup de notre société. Et effectivement, eux, pas parce qu'ils sont pas super formés non plus, mais on voit que des années, enfin après la suppression dans le code pénal de l'attentat à la pudeur, on qualifie encore les faits d'attentat à la pudeur. Voilà, ça fait partie des dysfonctionnements. Mais il y a autre chose sur les policiers, c'est que on remarque que c'est toujours un cran au-dessus. Il diminue la dimension sexuelle du crime. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les PV. Donc, c'est une euphémisation du fait sexuel. C'est-à-dire que régulièrement, on voit un viol devenir une agression sexuelle. Pour rentrer dans les détails un peu sordides, le viol par fellation, depuis 1980, c'est un viol. Mais on trouve encore, dans les années 2010, des qualifications d'agression sexuelle, parce qu'on ne veut pas l'accepter. Et puis, je vois justement en superposant mes récits entre celui des femmes et celui de que on supprime de leur du PV des attouchements à la poitrine, des détails qui n'en sont pas parce qu'ils permettraient de qualifier les faits comme il me soulève ma jupe ou je sais pas quoi, enfin bon, des choses comme ça. Et on retrouve tout le temps cette c'est une euphémisation vraiment. On réduit la chose. Et puis, notamment sur les adolescentes, alors je le dis sans avoir de réponse à ce questionnement qui m'a vraiment frappée, c'est-à-dire que celles qu'on ne croit pas, je l'ai remarqué, là j'avais des dizaines et des dizaines de plaintes, donc ça permet quand même, non pas de faire de la statistique, mais quand même un petit peu d'avoir une vision d'ensemble. Je ne sais pas pourquoi, celles qu'on ne croit pas, ce sont les adolescentes. Et c'est quasiment systématique. On les soupçonne. Alors les choses changent avec le temps, c'est-à-dire que dans les années 80, on les soupçonne d'avoir d'inventer un viol pour justifier une vie sexuelle quoi, qu'on considère comme trop précoce, ou des grossesses, quand bien même elles ne sont pas enceintes. Ça, c'est assez étonnant, parce que ça veut dire que c'est totalement irrationnel comme fantasme. Donc ça m'interroge. Et puis ça, on le retrouve, mais on le retrouve jusqu'à la dernière victime, 2018. Les policiers prennent au sérieux son cas, mais quand même, ils lui posent cette question qui ont été posées à tant et tant d'adolescentes dans cette histoire. Est-ce que tu avais un contrôle ce matin ? Et en l'occurrence, la jeune fille de 2018 répond non. Alors, elle vient de s'échapper. Elle s'est échappée des griffes d'Inoscala. Mais bon, elle a quand même subi une agression sexuelle. Et quand elle arrive au commissariat, enfin, à l'hôtel de police, on dit en Belgique, elle est quand même elle est pas très bien. Donc, elle répond non. Seulement, ils vont vérifier, parce que ce sont des bons policiers. Et ils reviennent dans la salle où elle est, qui commence à ressembler à une salle d'interrogatoire et non plus à un dépôt de plainte. Et on lui dit, mais si, non seulement tu n'avais pas un contrôle, mais tu en avais deux. Alors, voilà. Et ça, c'est très compliqué. Ça, c'est... Voilà. Et c'est spécifique aux adolescentes. Il y a un fantasme de la menteuse. Voilà. Il y a aussi la culpabilité, mais c'est des choses qu'on connaît. Mais parfois, on pense qu'on exagère. Et là, c'est... Ben voilà, j'étais... comment t'étais habillée. Et ça rentre. C'est tatoué dans le corps de ces femmes. Parce que en 2022, devant la cour d'assises du Nord... Elles reprécisent, elles ont 55 ans. Elles disent, mais j'avais une doudoune, hein, j'avais une jupe longue. Hein. Ça reste.
Ce qui est effarant quand on lit votre livre, c'est souvent dans les interrogatoires immédiats, très vite, il y a une sorte de suspicion. C'est-à-dire, on n'entend pas ce qu'elles racontent, mais tout de suite, on met en doute les quelques paroles qu'elles arrivent à dire. Et ça, c'est quand même très, très impressionnant, parce que c'est arrivé plein de fois, enfin, vous dites dans votre livre.
Honnêtement, j'ai bien vu, moi, en me lançant dans cette histoire, que ça allait parler des dysfonctionnements et de choses, moi, qui me tenaient à cœur à raconter. Je n'ai jamais imaginé que ça soit aussi... que c'est cette ampleur-là. Et que ça soit aussi systémique. J'ai été moi-même étonnée par ma propre enquête, je dois dire. Souvent, je me disais, ben non, c'est pas possible, en fait. C'est, voilà, et ça me fait froid dans le dos, parce que je pense pas qu'on puisse... voilà, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, sur le fait divers, qui est une sorte de genre un peu à la mode. Je crois vraiment pas qu'on puisse dire que le fait divers, il fasse toujours société, en fait. On peut pas toujours monter en généralité, c'est même très, très dangereux de le faire. C'est régulièrement fait par nos hommes et femmes politiques, et on l'a vu encore récemment, et donc c'est dangereux de penser ça. Mais là, il y avait quelque chose, en fait, il y avait tellement de victimes, j'ai vu tellement de... J'ai étudié toutes les plaintes, j'ai vraiment étudié chaque cas sur un espace-temps déterminé, sur 30 années, et je me suis dit, ah oui, si, quand même là, on peut monter un petit peu en généralité et dire qu'on a un problème.
Voilà. Est-ce que c'est la raison pour laquelle il n'y a que 56 cas reconnus, officiels, sur une centaine de plaintes, dont beaucoup sont partis dans les sables, Et qu'est-ce qui s'est passé entre les 56 reconnus et la centaine de plaintes déposées?
Ce qui s'est passé, c'est la justice et la vitesse de la justice, et puis la vérité judiciaire n'est pas toujours la vérité tout court et la réalité, et c'est normal, en fait. Il y a des choses anormales, il y a des choses qui sont normales. Il faut accepter aussi que les récits ne soient pas les mêmes, parce que la justice ne poursuit pas, par exemple, les mêmes objectifs qu'une écrivaine ou une journaliste, ou que, évidemment, des femmes qui attendent réparation, elles n'auront jamais en réalité, mais elles en ont des bribes. Et par exemple, donc Dinoscar est arrêté en 2018, on a plein de plaintes, notamment sur la base du tableau. Et il faut quand même aller vite, parce qu'on peut pas garder les gens en détention provisoire ad vitam aeternam. Donc faut aller vite. Et puis là, la juge d'instruction va estimer, comme souvent les juges d'instruction, qu'elle va vouloir renvoyer devant une cour d'assises que les dossiers solides. Voilà, c'est quelque chose qui est assez commun, je pense, chez des juges d'instruction. C'est-à-dire, elle ne veut pas de dossier fragile. Donc, elle va en sélectionner beaucoup moins 56. Mais il va y avoir des appels, le parquet ne va pas être d'accord avec ça. Bon, bref, appel des victimes, notamment. Et, in fine, c'est 56. Mais les avocats généraux, donc le ministère public, qui représente la société au procès, a dit quand même, non, là, il en manque. Et d'ailleurs, moi, je parle de beaucoup plus de 56. Celles qui manquent, elles sont dans le livre. Il en manque. Il y en a qui apparaissent. On a des plaintes ou des mains courantes. On a des traces d'eux. Et on ne les a pas exploitées. Donc là, il vient d'avoir une nouvelle ouverture d'information judiciaire, très récemment, là, il y a un mois, pour 15 nouveaux cas. Et puis, il y a des cas... il y a une dame dont je parle qui se prénomme Rachel, dont je parle dans le livre, que moi, j'ai rencontrée, dont la justice n'avait jamais eu... n'avait jamais eu de contact, en fait. Elle, ça fait partie des nombreuses femmes dont les plaintes ont été perdues.
Est-ce que votre livre est à l'origine de cette nouvelle instruction ?
Non, parce qu'ils avaient été... alors, en partie sur certains cas, je pense effectivement cette dame qui se prénomme Rachel, oui, là, en l'occurrence. Mais les avocats généraux avaient demandé, mais effectivement, là, le récit existe. Mais c'est compliqué aussi de la part de la justice, parce que ce que je disais, ce récit n'existe pas, en fait. Et qui a le temps de passer 4 années à reconstituer cette... Et puis... Les magistrats ont des pouvoirs et des droits à un accès à la documentation judiciaire que je n'ai pas. Moi, je suis journaliste, donc il faut que je filoute un peu pour avoir les choses. En tant que journaliste, on a des accès qu'eux, ils n'ont pas, effectivement, de traîner dans la région, du temps, de parler à des gens, de parler hors procédure, de discuter avec un journaliste local qui dit ah ben, ça me rappelle cette histoire, ou un policier, ou voilà, des élus. Enfin. On a un champ d'action plus large.
Alors, si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous avez eu le prix de la littérature du réel. Donc là, vous avez raconté l'histoire. Maintenant, il faut que vous racontiez un peu comment vous avez travaillé le cœur même de ce livre, la forme que vous lui avez donnée, le style que vous lui avez donné, parce qu'il faut quand même dire que c'est un style très sec, avec des phrases courtes. Vous allez à l'os et vous vous concentrez sur les faits, rien d'autre. Pas d'envolée lyrique, vous faites même pas de la littérature, vous faites pas auteur, mais vous faites un livre très fort, qui est important, qui fera date aussi sur le changement des mentalités ou la façon de traiter les victimes. Comment vous avez procédé une fois que vous avez ramassé toute cette documentation? Et on rappelle donc, sur place, les victimes, les enquêteurs, la presse locale, les PV, et je dois en oublier.
C'est un millefeuille en fait qu'il a fallu reconstituer. Alors d'abord sur l'attention aux faits et alors à l'os et les phrases courtes. Bon ben moi c'est ma musique personnelle donc c'est ma partition. Je vais pas emprunter d'autres que je ne maîtriserai pas. La question des faits d'abord c'est effectivement dans la littérature du réel dans la sélection de ce prix il y avait des gens qui étaient je pense davantage écrivains et moi clairement je viens du pays des faits. Je suis journaliste, j'ai travaillé longtemps à Libération, c'est mon pays et celui-ci, sur la littérature du réel, je viens de cette rive-là, très clairement, et c'est ce que je sais faire, et c'est ce que j'aime faire, c'est raconter le... J'ai pas de prétention du tout à la fiction, en tout cas dans les livres. Et donc, je partais déjà de là. Plusieurs choses. Ben, en fait, j'amoncelle cette matière. Je voulais que ça soit chronologique, même si effectivement il y a un antéchronologisme au début qui est une scène du procès. Mais je voulais que ça soit chronologique parce que je voulais très basiquement une démonstration par les faits. Et comme on est sur une mécanique de l'échec, cette mécanique, savoir raconter qu'un policier a fait ci et deux heures après il a fait ça. Et puis c'est aussi l'histoire, le déroulé de la vie de ces femmes qui se diluent, qui s'atrophient dans la douleur, dans la peur. Donc la forme chronologique était pour moi une évidence, un choix. Donc je fais un gros récit.
Si je peux me permettre qu'on comprenne bien, cette forme chronologique, elle n'est pas enfermante. C'est-à-dire que ce n'est pas telle année, telle année, telle année. Non. Commencer chaque chapitre par le récit d'une agression, et on voit bien que les années s'accumulent et que lui pratique toujours de la même façon, mais ça n'est pas une contrainte. Enfin, quand vous dites chronologique, c'est la façon dont vous avez travaillé, mais je voudrais bien dire au lecteur qu'on n'est pas pris par cette...
Non, mais c'est l'idée, c'était de mettre en branle cette mécanique. Et donc, la mécanique, elle avance avec le temps. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une avancée chronologique, et surtout, moi, ce que je sais faire, c'est raconter des histoires. Alors des histoires vraies, certes. Je ne voulais pas faire un essai sur le traitement des victimes d'agressions sexuelles et de viols pendant 30 ans. Donc c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de commentaires. Là, c'est d'ailleurs, je suis dans un exercice un peu compliqué avec la sortie du livre. C'est-à-dire, je commente beaucoup un truc que je n'ai absolument pas voulu commenter dans le livre. Donc c'est un peu étrange pour moi, mais ça nous permet de faire des passerelles et de parler du livre. Mais donc l'idée, c'est il y a une autre raison à l'attachement des faits et certainement à la sécheresse, autre mes compétences qui s'arrêtent à quelque chose d'un peu sec, c'est que cette matière-là, le crime sexuel, on en a parlé tout à l'heure, il y a toujours une suspicion de fantasme, de mensonge. C'est comme disent les Américains, et il y a quelque chose, on n'est jamais sûr en fait. L'administration de la preuve, c'est pour ça qu'en justice c'est compliqué, et donc il me semble que c'était plus fort de n'en rester qu'au fait et de pas faire mes petits commentaires quoi pour dire les choses. Alors je peux les faire sur ce que je pense du sexisme de la société il y a 30 ans et encore un peu aujourd'hui largement, mais je voulais pas que ça apparaisse parce que j'avais vraiment à cœur d'une démonstration par les faits. Et donc, je rassemble cette matière en chronologique. En fait, c'est comme un... Je sais pas comment on travaille les autres. C'est un bloc, en fait. On a son bloc de pierre. Et après, faut tailler dedans pour que ça fasse récit, que ça fasse histoire. L'énorme complexité de ce récit, c'est que... C'est la répétition, en fait. J'avais besoin de l'effet de répétition, de saturation. J'avais besoin de créer une forme d'intranquillité chez le lecteur, parce que c'est le sens de ce récit. Sans qu'ils partent écœurés par la répétition. Voilà, c'est un exercice compliqué. Moi, je viens pas du tout de la littérature, je viens du journalisme de format plus court. Donc, effectivement, ça demande un peu. Tout le monde n'est pas Roberto Bolaño, donc la répétition, voilà. Donc,
précisément, comment vous avez procédé? Comment vous avez beaucoup réécrit? C'est sorti d'un seul jet?
Non, j'ai réduit mon bloc de pierre. Je ne sais pas comment expliquer autrement. Je l'ai affiné, j'ai sculpté dedans. Je me suis, quand j'avais ce récit de 1000 pages, je voyais ce qui manquait, ce qui manquait pas. Et puis je l'affinais en fonction de ce que je voulais faire ressortir. c'est-à-dire cette mécanique-là, ces dysfonctionnements-là. Et donc, ça me disait parfois, ah, faut que tu retournes sur le terrain, faut que tu essaies de joindre cette personne, faut que tu reposes cette question à cette femme. Et puis, bon, parfois, il y avait des trous quand même. Il y avait des... Voilà, faut que si tu retrouvais un magistrat de cette époque-là, il t'expliquerait peut-être pourquoi ils ont fait ça. Et après, dans l'écriture, eh bien, il fallait qu'il y ait cette mécanique démonstrative, qu'elle soit quand même un peu pénible. Voilà, j'avais besoin de créer de l'inconfort. Mais on est sur une ligne de crête, sans en faire fuir des lecteurs, quoi. Donc, c'est... Et après, j'ai choisi... de ne pas apparaître en tant qu'enquêtrice ou le moins possible, parce que ça m'intéressait pas en termes d'écriture, parce que je trouvais mon enquête pas intéressante. Enfin là, déjà, ce qui m'intéressait, c'était vraiment les faits. J'ai introduit un peu la première personne à la fin du livre, et même un peu à partir du moment où je le suis en temps réel, et notamment au procès. Parce que quand j'arrive au procès, ça fait 4 ans que je suis sur cette histoire, quasiment. Oui, ça fait 4 ans. Je suis plus à 100% journaliste, en fait, quand j'arrive dans cette salle d'audience. Il y a ces femmes, pour beaucoup, je les connais. J'ai très, très peur pour elles. Je suis totalement angoissée parce que je sais que ça va mal se passer. Et parce que ça, c'est une épreuve, la justice, dans ces cas-là. Et donc là, je dis un peu plus d'où je parle. Et puis. Je fais modestement partie de cette histoire là, à ce moment-là, et puis voilà. Mais moi, il y a une journaliste il y a beaucoup de journalistes que j'adore dans les littératures du réel, enfin, en tout cas, comme disent les Américains, de narrative non-fiction. Elle n'est pas très connue, elle s'appelle Adrienne Nicole Leblanc, et elle a écrit un livre qui s'appelle Les Enfants du Bronx, qui a été traduit il y a quelques années aux éditions de l'Olivier, qui est pour moi le modèle du journalisme narratif. Elle a passé une douzaine d'années auprès de femmes de dealers du Bronx, et elle suit cette famille pendant 10 ans, et elle en fait un livre. L'édition française n'était pas préfacée par Florence Aubenas, on ne saurait pas que c'est une journée, on pensait que c'est un roman. Elle écrit... on voit pas les traces de journalisme, on voit pas les traces de sueur et dans l'écriture. Et pour moi, c'est un modèle inégalable. Et donc, j'avais envie de cette écriture sans aucune couture apparente, en fait. Voilà. Donc,
comment vous faites pour garder la distance le livre est absolument extraordinaire. C'est-à-dire que vous êtes vraiment en équilibre tout le temps, tout le temps. Comment vous faites par rapport à la distance? Et puis, comment vous faites justement pour vous retirer et pas trop apparaître? Alors, vous faites une note au départ, vous expliquez que c'est un de vos copains qui vous a dit, mais toi qui t'intéresses aux faits divers, il y a un truc qui s'est passé là-bas, tu devrais aller voir. Et puis à la fin, vous dites quelque chose. Mais comment vous avez fait pour tenir cette distance? Comment vous avez fait?
C'était pas très... Enfin, c'était non. Assez naturel, en fait. J'avais pas...
Non, parce que vous venez de dire que quand vous étiez arrivé au tribunal, d'abord, les choses un peu avaient changé pour vous.
Puis, ah oui, la distance, vous voulez dire la distance émotionnelle, oui, par exemple, par rapport à cette histoire. Je sais pas, c'est une question qu'on me pose beaucoup, alors je devrais réfléchir pour dire des choses intelligentes, parce que j'ai jamais de choses, je sais pas tellement répondre à cette...
Et on risque de vous la reposer encore.
Et je n'ai pas tellement de réponse à cette question. Ce qu'il y a de sûr, c'est que en fait, on est quand même... la douleur de ces femmes est tellement immense, la responsabilité de celles qui écrivent leur histoire est tellement grande, que c'est plus ça qui va me procurer un si j'ai des raisons de mal dormir la nuit, c'est plus ça. Qu'ai-je fait de la parole de ces femmes? Est-ce que je ne les ai pas trahies? Est-ce que je trouve que c'est ça qui est le plus dur à gérer encore maintenant et toujours. Mais bon, après moi, ça m'a toujours fait ça dans mon travail de journaliste quotidien. J'ai toujours une petite angoisse le lendemain, à part peut-être chez les hommes politiques ou des gens qui sont. Mais quand on raconte la vie des gens, c'est violent quand même, surtout cette partie de là de la vie.
Comment est-ce qu'on sort d'une affaire pareille?
Ben, c'est un peu... Je sais pas. Pardon. Je sais pas. Je suis très contente d'avoir mené ce travail à son terme, même si l'histoire n'est pas finie, d'ailleurs, hein, parce qu'il a fait appel. Donc, il va y avoir un autre procès. Et donc... J'en sors avec une réflexion. On part toujours avec des a priori. Puis alors, moi, je suis pas la dernière. Hein, sur le voilà, je suis très en colère sur la question de violence sexuelle, etc. Donc, j'étais obligée de me contenir pour écrire. Je savais que c'était un exercice intéressant parce que justement, j'allais devoir déposer ça au vestiaire pour faire cette enquête et écrire. Et ça a transformé certains. Je suis plus en colère en sortant. Mais c'est ma colère s'est transformée. Elle s'est enrichie de tous ces faits et de j'ai compris des choses, quoi.
Bah écoutez, merci Alice d'être venue. Oui. Et,